Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match comme ça samedi avec Christian Olivier. À la une, un samedi de contestation en orange fluo, la couleur des gilets des chasseurs à Mont-de-Marsan, mais aussi Caen, Orléans, Charleville, Redon, Fort-Calquier et Amiens, où Xavier Bertrand est venu apporter son soutien aux manifestants en cette période pré-présidentielle. En tout cas, une forte mobilisation malgré les gestes d'apaisement du gouvernement. On va revenir sur cette journée de défense de la ruralité et des chasses traditionnelles. Les autres défilés, c'était ceux des antipasses sanitaires, le 10e samedi de mobilisation dans de nombreuses villes. 180 rassemblements dans toute la France, 3 défilés à Paris. Dans celui du Trocadéro, des soignants qui ne peuvent plus exercer faute de vaccination ont été très applaudis. Nous irons en Algérie après la mort de l'ex-président Bouteflika. Au cœur de l'actualité également, la crise diplomatique Paris-Washington. La France a rappelé son ambassadeur aux États-Unis, tout comme celui en Australie. La Maison-Blanche semble vouloir apaiser les tensions dès la semaine prochaine à l'ONU. Alors, est-ce vraiment grave? La France pourra-t-elle obtenir des compensations de l'Australie après la rupture de ce méga contrat de sous-marin? On en parlera avec l'avocat d'affaires spécialiste des États-Unis, Jean-Claude Beaujour. Éric Zemmour semble vouloir temporiser à Nice entre lecteurs et électeurs. Une nouvelle conférence dédicace est prévue ce soir en forme de meeting, comme hier soir à Toulon. Mais le toujours non-candidat a préféré annuler cet après-midi un passage au marché aux fleurs. Et puis dans cette France sous tension, notamment sur la question de la vaccination et du pass sanitaire, un fils de pub crée un festival citoyen demain au Trocadéro à Paris pour la paix citoyenne. Pourquoi donc serions-nous en guerre? Franck Tapiro, à l'origine de cet événement, sera l'invité d'RTL Soir. Notre-Dame sauvée, les délais seront tenus pour 2024. Le général Georges Lain l'a annoncé sur RTL ce matin, vous l'entendrez. Et puis nous irons sur le parvis de Notre-Dame pour les journées du patrimoine. La Ligue 1 de football, le derby du Nord, tant attendu au Stade Bollard. Depuis 17h, Lens affronte Lille. Samuel Duhamel, où en est-on?
Effectivement, c'est toujours à mi-temps ici à Lens. Toujours ce score de 0-0 dans un climat très tendu, puisque le match est pour l'instant arrêté après des échauffourées entre supporters lensois et supporters lillois.
Merci, espérons que la tension baisse un petit peu. On fera un nouveau point dans 20 minutes. Ce soir à 21h, ce sera Saint-Étienne-Bordeaux. Deux grands noms du foot, tout au fond du classement. Ce sera à suivre évidemment sur RTL, dans RTL Foot. Le quintet de Saint-Cloud, 7, 14, 3, 10 et 2. Et puis le ciel, Céline Dacosta, bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Du gris pour demain?
Oui, c'est vrai, on peut le dire, même si on aura quand même un petit peu de soleil près des frontières du Nord et de la Méditerranée avec un vent soutenu. Pour les autres, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies et averses. Ça, c'est pour la façade ouest, des averses localement soutenues de la Normandie à la Franche-Comté et aux Alpes, avec là aussi du vent. Du vent, on en aura également sur le Cap Corse, des rafales qui pourront grimper jusqu'à 130 km à l'heure. Et peut-être quelques coups de tonnerre dans la matinée. Le soleil, rassurez-vous, pour la Corse, reviendra dans l'après-midi. Les températures, demain matin, 9 à 16 degrés, un petit peu plus près de la Méditerranée. Puis l'après-midi, la moyenne ira de 18 à 22 degrés, jusqu'à 28 encore pour Nice.
Merci Céline. Et puis à 18h20, on ira chez l'opticien ce soir, dans mon métier et ma passion.
RTL Soir.
Des dizaines de milliers de personnes ont donc manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes pour défendre les chasses traditionnelles d'oiseaux jugées illégales par le Conseil d'État en août dernier. Alors certes, cette semaine, le gouvernement a voulu calmer le jeu en mettant en consultation plusieurs arrêtés pour réautoriser certaines de ces chasses aux grandes dames des défenseurs de l'environnement. Mesure interprétée comme un geste envers cet électorat très courtisé évidemment en ce moment. Mais à l'évidence, ça n'a pas suffi à calmer les esprits et la mobilisation a été impressionnante et on peut dire qu'elle est même allée au-delà de la simple question de la chasse, notamment ce matin à Mont-de-Marsan. Reportage Denis Grandjou.
Oui, après plus de 3 heures de déambulation durant les 4 kilomètres du parcours de la manifestation, les prises de parole se sont succédées au pied des arènes de Mont-de-Marsan.
Nous aujourd'hui, on est venus avec les parapluies. Nos grands-pères seraient venus avec les fourches. Mais nous, on est plus sociables qu'eux.
Ça fait 40 ans qu'on ferme nos gueules. Ça fait 40 ans qu'on serre les dents. Force est de constater que ça nous a amenés au bord du gouffre. Ça n'a que trop duré.
Aujourd'hui, nous devons nous exprimer. Nous devons exprimer notre détermination et nos inquiétudes pour l'avenir, tout en conservant notre image de ruraux sans histoire, qui n'emmerdons pas les autres, contrairement à certains.
Il y a 6 ans, une manifestation avait rassemblé 2500 chasseurs environ, ici même à Mont-de-Marsan. Cette fois, tous les records sont battus. On parle même d'un record historique avec 20 000 manifestants.
Et encore, on n'est pas tous là, malheureusement. Il y en a qui n'ont pas compris qu'on est tous attaqués. Et là, aujourd'hui, il faudrait que ça soit tous les ruraux qui descendent dans la ville.
À quelques semaines du début de la chasse à la palombe, les chasseurs restent mobilisés avec un autre dossier très sensible en vue, la chasse à l'alouette.
On est là, on est nombreux, on reviendra. Et s'il faut, on ira à Paris.
Reportage signé Denis Grandjoux. Voilà donc pour la manifestation de Mont-de-Marsan qui a réuni, vous avez entendu Denis à l'instant, près de 20 000 personnes. D'autres rassemblements étaient organisés. Caen, Orléans, Charleville, Fort-Calquier, Redon ou encore Amiens avec au moins 12 000 participants. Amiens où la portée politique de la manifestation a été mise en lumière. Ville natale d'Emmanuel Macron, fief électoral de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Et puis terre du patron de la région, également candidat à la présidentielle, Xavier Bertrand, qui est venu dire aux chasseurs qu'avec lui, eh bien, ça ne se passerait pas comme ça. Écoutez-le entouré de quelques manifestants.
On a un président de la République pour avoir des voix qui dit « Je comprends la chasse, je comprends sa place dans la société. » Et aujourd'hui, on met un ministère anti-chasse au ministère de l'écologie. C'est comme mettre un anti-militariste au ministère de l'armée. C'est comme mettre un vegan au ministère de l'agriculture. C'est un non-sens. Et donc du coup, on se sent effectivement incompris.
Moi, je ne laisserai pas attaquer la chasse, ni les chasses traditionnelles. Et encore une fois, que ce soit dans la région et si les Français me font confiance, il n'y aura pas de remise en cause de la chasse. Jamais.
Vous avez le même point de vue au fond qu'Emmanuel Macron.
Il faut arrêter le « en même temps ». Le « en même temps », c'est une blague d'hypocrite. Le « en même temps », c'est de chercher à faire plaisir à tout le monde. Dans la vie, il faut faire des choix. Moi, je suis aux côtés des ruraux.
Voilà, donc l'un des manifestants d'Amiens, et vous l'avez entendu toujours à Amiens, Xavier Bertrand, au micro d'M6. Xavier Bertrand qui sera demain l'invité du grand jury RTL, Le Figaro LCI, à midi. L'Algérie a donc appris ce matin la mort de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 par les manifestations du mouvement Irak, mouvement pro-démocratie. Il était resté 20 ans à la tête du pays, record de longévité. Il s'est donc éteint hier à 84 ans, 2 ans et demi après son départ donc du pouvoir, contraint. Très diminué, quasi invisible depuis un AVC en 2013. Sa disparition a suscité peu de commentaires officiels en Algérie, comme si la page était tournée depuis longtemps. Mais dans la rue, les Algérois quand même ne parlent que de ça. Alger pour RTL, Rabagassi.
À l'exception de quelques chefs de parti de diverses tendances, peu de réactions officielles pour le moment concernant le décès hier de l'ex-président Bouteflika. Dans un communiqué laconique, la présidence de la République a annoncé sa décision de mettre en berne le drapeau national sur l'ensemble du territoire pendant 3 jours. Il n'y a aucune évocation d'un deuil national pour le moment. La rue, par contre, ne se prive pas pour commenter et débattre.
Quand même, je suis quelqu'un qui ne s'est jamais réjoui d'une quelconque mort. Bah, il est mort, quoi.
Je me rappelle très très bien de son premier discours alors que j'avais 16 ans, où il disait à une journaliste étrangère que si les Algériens préféraient rester dans leur médiocrité, ben que c'était tant pis pour eux. Le type n'est pas venu pour aider l'Algérie ou aider le peuple, mais il est venu pour se venger ou pour se racheter. Et j'ai trouvé ça tellement méprisant.
Des sources proches de la famille du défunt annoncent que l'enterrement aura lieu demain. Alger.
Rabah Ghassi à Alger pour RTL. Et puis vous le savez, la France a rappelé pour consultation ses ambassadeurs aux États-Unis en Australie en raison de la gravité exceptionnelle, c'est le terme employé, de l'annonce du partenariat stratégique Washington-Londres-Canberra qui a débouché, vous le savez, sur l'annulation par l'Australie d'un gros contrat d'achat de sous-marins à la France. Invité d'RTL soir, Jean-Claude Beaujour, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat international, spécialiste des États-Unis, vice-président de l'association France-Amérique. Merci d'être avec nous ce soir sur RTL.
Merci pour votre invitation.
Alors, sur l'échelle des tensions diplomatiques, on en est où ce soir entre Paris et Washington? Disons sur une échelle de 1 à 10.
Allez, je dirais à peu près 4, parce qu'évidemment, tout d'abord, les relations diplomatiques ne sont pas rompues. Le fait de rappeler un ambassadeur veut simplement dire, c'est un signal politique, veut simplement dire qu'il demande, le pays, la France notamment, a demandé à M. Étienne, qui a été conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, de rentrer à Paris pour pouvoir avoir un certain nombre d'explications. Alors, il y a une dimension, juste pour qu'on comprenne, il y a une dimension administrative, c'est c'est que l'ambassadeur de France a signalé au département d'État américain qu'il était rappelé par Paris, donc il y a une certaine gravité. Pour autant, il n'y a pas rupture des relations diplomatiques, mais l'affaire est sérieuse. Et à Washington, on sent bien que la France n'est pas contente. Cette nuit, le porte-parole du Pentagone est aussi intervenu pour pouvoir dire qu'on allait réfléchir, qu'on allait se voir pour trouver des solutions.
Alors, rupture de la confiance, comment peuvent faire les Américains? Quels gestes peuvent-ils faire pour restaurer cette confiance, calmer le jeu?
Alors, vous savez, il faut être très prudent puisque nous avons, il y a des intérêts importants des deux côtés. Je vais vous donner un chiffre. Le volume commercial de nos échanges est d'environ 90 milliards. Je rappellerai qu'il y a 500 000 Américains qui vivent des entreprises françaises aux États-Unis et à peu près le même chiffre, à peu près 500 000 Français qui vivent de la présence des entreprises américaines en France. Donc, ça n'est pas demain qu'il y aura une rupture diplomatique. Ce qui pourrait être fait, vous savez, il y a toujours des tas de dossiers en suspens. Moi, je pense qu'il y a une chose que nous pourrions demander, c'est sur la question de l'extraterritorialité des lois américaines. Ça serait l'occasion pour nous de dire aux Américains, eh bien non, nous n'acceptons pas que nos grandes banques soient pénalisées comme l'ont été un certain nombre de grandes banques. Et donc, dire, voilà, nous voudrions revoir la copie, en tout cas, votre position sur ces sujets-là.
Un dernier mot, Jean-Claude Beaujour, puisque vous êtes avocat d'affaires également. La France compte obtenir des réparations financières de la part de l'Australie qui a donc cassé le contrat. On a une idée de ce que ça peut représenter et de ce que prévoyait le contrat?
Alors, des idées, non, mais on connaît un peu ce type de contrat. On peut imaginer des sommes qui pourraient avoisiner 5% du volume. On peut très bien imaginer un dommage qui soit dans l'absolu, vous pouvez très bien avoir un dommage qui soit plus important que le montant d'un contrat. Alors, très souvent, il y a des clauses d'arbitrage qui se font, qui sont insérés dans ce type de dossier. S'il n'y avait pas accord entre les parties, l'affaire ira à l'arbitrage, qui est donc la justice privée, mais avec des règles de droit très précises, et qui durent en général plusieurs années. Mais ce sont des contrats qui sont suffisamment ficelés pour vous dire qu'on n'est pas passé, que les clauses de règlement de litige sont des clauses particulièrement travaillées par les avocats que nous sommes sur ce type de contrat.
On l'imagine bien. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Beaujour. Et dans un instant, Notre-Dame, on sera dans les temps, mais aussi les antipasses de nouveau dans la rue et le publicitaire Franck Tapiro qui veut remettre de la citoyenneté dans tout ça. A tout de suite.
RTL Soir, Vincent Parisot.
Comme
RTL Soir, Vincent Parisot.
2 ans et demi après l'incendie de Notre-Dame, la reconstruction va enfin pouvoir commencer. Et c'est à l'occasion des Journées du patrimoine que le général Georgelin, le président de l'établissement public chargé de reconstruire la cathédrale, l'a annoncé ce matin sur RTL.
Nous serons dans les temps de rouvrir la cathédrale au culte et à la visite en 2024. L'archevêque retrouvera l'utilisation de sa cathédrale, le monument est sauvé.
Le monument est sauvé, a dit le général Georgelin ce matin sur RTL. Et en attendant, eh bien, ce week-end de Journée du patrimoine, c'est l'occasion d'aller sur le parvis à la rencontre de tous ceux qui vont participer à cette reconstruction. Reportage Nathan Bocard.
Oui, au pied de la cathédrale, les artisans montrent au public comment ils ont sauvé Notre-Dame. Les charpentiers, par exemple, y dévoilent aux curieux les immenses cintres de bois qu'ils ont posés pour consolider le bâtiment.
C'est pour soutenir.
C'est pour soutenir les voûtes.
Pour eux, la fin du chantier de sécurisation, c'est un soulagement. Yves Massel travaille sur la charpente de Notre-Dame depuis plus de 2 ans.
C'est un chantier très, très compliqué, très complexe. Il fallait être très très fin dans tout ce qu'on a pu faire. On est soulagé du fait que Notre-Dame est sauvée et on ressent une grande fierté de l'avoir fait.
Et pour le public, venu rencontrer ces artisans, c'est l'occasion de mieux comprendre le chemin parcouru pour sécuriser la cathédrale.
C'est très impressionnant.
Cécile découvre aujourd'hui l'ampleur du chantier.
C'est très valorisant, je trouve, pour tous ces corps de métier que les gens comme moi ignorent la plupart du temps, je pense. Je crois qu'on sera beaucoup à vouloir y rejeter un œil, sachant tout ce qui a été fait derrière.
Mais pour cela, il faudra attendre 2024 et la fin du chantier de restauration.
Reportage Nathan Bocard. On a appris qu'une voiture a foncé cet après-midi sur la terrasse d'un bar-restaurant en face du château de Fontainebleau. Il y a au moins 6 blessés. La conductrice a été interpellée. Elle a été évacuée aux urgences psychiatriques. Les policiers tentent de déterminer s'il s'agissait ou non d'un acte intentionnel. C'était aujourd'hui le 10e samedi de mobilisation pour les opposants au pass sanitaire. 180 manifestations dans toute la France. La police s'attendait à 120 000 personnes dans les rues au niveau national, 17 000 dans la capitale, avec 3 défilés distincts. Dans les rangs, il y avait aussi des soignants qui, depuis le 15 septembre, vous le savez, ne peuvent plus exercer. Et ils ont été très applaudis au Trocadéro, Vincent Serrano.
Oui, certains soignants sont même montés sur scène, blouse blanche ensanglantée sur le dos. Une dizaine au total, chacun est invité à se présenter à la foule.
Dora, radiologie à l'hôpital de Pontoise.
Voilà.
Applaudi par les manifestants, mais aussi par Stéphanie, psychologue suspendue elle aussi, mais qui a préféré rester à l'écart, toujours très remontée contre le gouvernement.
Ils font la propagande comme quoi, mais non, il n'y a personne, mais non, il n'y a pas grand monde. Parce qu'il y en a bien sûr là qui craquent un petit peu au dernier moment, quand on vous dit que vous n'avez plus de salaire. Moi je suis seule et j'ai une fille, je la nourris plus. Je fais comment? Moi, ce que je veux, c'est du travail. C'est s'il y a une entreprise là, moi, je suis prête à changer de boulot. De toute manière, j'en ai marre. Il y a des urgences qui ne vont pas pouvoir être prises en charge. Il va y avoir des morts. C'est pour ça que je suis là.
Et juste à côté d'elle, Karim et sa sœur Cédric hochent de la tête, touchés, disent-ils, par ce que vient de dire Stéphanie. Alors, de moins en moins de manifestants, ils le reconnaissent, mais ce n'est pas ce qui compte pour eux.
Même si peut-être un petit peu moins de monde, peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à venir un petit peu moins, il y en a peut-être qui en ont marre, il y a tout, mais bon, on arrive à un stade où bon, les gens perdent leur emploi, si eux font ce sacrifice-là, on va quand même pas arrêter maintenant, quoi.
Ces gens, il y a quelques temps, on les applaudissait le soir, ils intervenaient avec des sacs poubelles pour soigner les gens, on leur a demandé de faire sacrifice de leur vie, on se détourne d'eux, non.
Ce qui veut dire que vous serez là samedi prochain,
ouais, ah, ouais. Bien sûr.
Tous les samedis, même si à la fin on n'est plus que 50 ou 100, voilà, on sera là, ouais.
C'est pourquoi, avant de quitter cette place du Trocadéro, ils ont rangé soigneusement dans leur sac à dos l'immense banderole à l'inscription « Liberté » qu'ils comptent bien redéployer dans une semaine.
Reportage Vincent Serrano. Et justement, en écho aux actions des anti-vax, des anti-pass, le publicitaire communicant Franck Tapiro organise demain à Paris un événement citoyen. Bonsoir Franck Tapiro.
Bonsoir Vincent.
Merci d'être venu ce soir. Pour finir la présentation, on précise aussi que vous avez aussi œuvré au service de la politique hein, dans votre
métier. J'ai été publicitaire et communicant pour Nicolas Sarkozy, entre autres.
Et vous avez cofondé le mouvement citoyen ACT, qui organise demain au Trocadéro le festival, le premier du nom, Festival Citoyen pour la paix citoyenne.
Absolument.
Parce que la paix dans la citoyenneté vous paraît menacée?
En fait, c'est la citoyenneté qui me paraît menacée. Quand je vois aujourd'hui cette guerre civique qu'on nous impose, vous venez d'en parler, mais on en parle depuis maintenant plusieurs années, plusieurs week-ends, et quelle que soit l'audience, je trouve qu'aujourd'hui, on oppose les citoyens les uns contre les autres. Ouais. Et en plus, plus rien n'a de sens, puisque je suis persuadé que la majorité des gens qui ont défilé aujourd'hui pensent, eux, défiler au nom de la citoyenneté, hein, avec le drapeau français, etc. Donc à un moment, il y a une déviance au niveau du sens total. La citoyenneté, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est d'abord penser à l'autre, c'est tout ce qui nous rassemble. Et je pense qu'il y a en fait un besoin, c'est de remettre la citoyenneté au cœur du débat public. Mmh. Je pense qu'en fait aujourd'hui, la citoyenneté, c'est ce qui nous manque pour justement créer une paix citoyenne. C'est quand même bien de faire un appel à la paix citoyenne, vu ce qui est en train de se passer. Mmh. Ça devient hystérique et on a l'impression que les gens ne se parlent plus, ne communiquent plus au sein des mêmes familles, au sein des groupes d'amis.
Mais en prenant cette initiative, oui, vous n'avez pas peur de donner du grain à moudre justement à ceux qui nous annoncent une guerre civile?
Déjà, on ne peut pas avoir peur en lançant un mouvement pareil et en lançant un festival. Et d'ailleurs, si on lance ce mot, c'est un festival et non pas, c'est pas une contre-manif ni une manifestation. Un festival, c'est quoi? C'est un rassemblement pour que les gens écoutent et il y aura pas mal de speakers qui vont donner leur définition de la citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est une chance. Et donc, comme c'est une chance, il faut aussi la célébrer. Donc, on va faire une fête. Donc, demain au Trocadéro.
Donc, il y aura de la musique.
Mais il y aura 80% du temps, ça va être de la musique, il y aura des DJ, il y a Mikosé, quelqu'un que vous connaissez bien de la maison. Il y a Ariel Wiesman qui sera là, il y a DJ Moses aussi, Lynn Moses, qui est un super DJ qui a gagné une victoire de la musique il n'y a pas longtemps, etc. Mmh. Donc en fait l'idée c'est de mélanger le sens, pourquoi c'est important de refaire société sur nos valeurs partagées, les valeurs partagées de la citoyenneté c'est important, les droits, les devoirs, le civisme, pour certains c'est une option. Mmh. Quand on dit patriotisme, oh là là c'est un vilain mot, c'est Marine Le Pen, mais depuis quand? Quand on est bleu, blanc, rouge, quand on va au stade défendre l'équipe de France, on n'est pas Marine Le Pen à ce que je sache. Donc faut récupérer nos valeurs, récupérer nos couleurs, dans le calme, dans la paix et surtout dans la cohésion. Moi ce qui me rend dingue quand j'entends c'est les dépêches, les informations tous les jours, c'est que on a l'impression que les deux camps s'éloignent de plus en plus. Je pense qu'il est temps de mettre un stop à ça. La guerre civique, il y en a marre, il faut refaire paix, une paix citoyenne et surtout rappeler aux gens que la citoyenneté c'est une chance. Donc demain, j'espère que un maximum de gens seront là. Mmh. Et puis c'est un signe, demain c'est la journée du patrimoine et j'ose le dire, pour moi la citoyenneté, c'est peut-être un des plus beaux patrimoines français.
Le premier festival citoyen, donc merci beaucoup.
Merci
demain
à vous. Au venez Trocadéro. Nombreux, venez nombreux à partir de 14h.
Et bien voilà, l'appel est lancé.
L'appel citoyen.
Merci beaucoup Franck Tapiro.
Merci,
je ne sais pas s'il y a une ambiance de paix citoyenne au stade Bollard, parce que tout à l'heure, le la pelouse avait été envahie. Le match a repris, Samuel Duhamel.
Malheureusement non, c'est tout le contraire. Effectivement, l'ambiance qui est délétère. Alors, niveau sportif, toujours 0-0 entre les deux équipes, mais le match n'a pas repris après la mi-temps, puisqu'on a assisté à des échauffourées entre supporters lensois et supporters lillois. Une centaine de supporters lensois a envahi le terrain. La situation est pour l'instant normalisée. Le match devrait reprendre dans une dizaine de minutes, mais évidemment, vous l'imaginez, le climat est très tendu ici.
Bien sûr, on suivra ça après 18h30 dans On refait le match avec Christian Olivier ce soir, noté 21h Saint-Etienne-Bordeaux, les deux derniers du classement à suivre dans RTL Foot. Une courte pause et on va chez l'opticien.